Voilà pour camper le décor. Cette critique des médias est une critique de la domination. Mais je voudrais poursuivre en me tirant une balle dans le pied. Ou pour le dire de façon plus lettrée, en empruntant la formule à Michel Foucault, je voudrais poursuivre en renonçant à ce qu'il appelle le bénéfice du locuteur. Le bénéfice que tire celui qui parle simplement en énonçant ce qu'il dénonce. C'est-à-dire ici, le pouvoir des médias. Il suffirait en effet de dire que les médias sont tout-puissants, puissants sur tous, sauf moi et nous, bien évidemment, pour occuper immédiatement la position du libérateur. Les médias sont tout-puissants. Je vous ai déjà partiellement libéré, si vous n'étiez pas déjà en entrant dans cette salle. Le problème, c'est que c'est faux. Les médias ne sont pas tout-puissants. Ils ne sont pas aussi puissants qu'on le dit, ou qu'ils le disent. Ils invoquent leur rôle de quatrième pouvoir, ou de contre-pouvoir, et n'exercent pas leur puissance ou leur pouvoir comme on le croit communément. Et je continue à me tirer une balle dans le pied et à renoncer au bénéfice du locuteur. Le pouvoir dont disposent les médias n'est ni uniforme ni écrasant. Il diffère selon les médias et ne s'exerce pas mécaniquement sur des consommateurs passifs. Entendons que les publics, car ils sont multiples aussi, les publics ne sont ni des éponges, ni des chiens que l'on dresse. Ce n'est pas tout. Ce pouvoir n'est ni autonome, ni homogène. Le pouvoir des médias ne s'exerce pas isolément et sans partage. Le pouvoir des médias se conjugue généralement avec ceux d'autres pouvoirs, des pouvoirs sociaux, économiques et politiques dont le fonctionnement du microcosme médiatique est plus ou moins dépendant. Je reviens un peu en arrière. Ce pouvoir n'est pas tout puissant. Un seul exemple. Si les médias étaient tout puissants et aussi puissants qu'on le croit ou qu'ils le laissent croire, évidemment, quoi que l'on pense de l'objet de ce référendum, le référendum de 2005 aurait été complètement battu. Les partisans du non au référendum de 2005 auraient été battus à plate couture, puisqu'on peut estimer à 85 et 90% le bruit médiatique entretenu par les médias dominants en faveur du oui. Simplement, les publics trient en fonction, oula, c'est étonnant, de leur origine sociale, de leur patrimoine culturel, de leurs options politiques, et donc ont un potentiel de résistance à ce que disent les médias, qui peut être, il ne l'est pas toujours, qui peut être beaucoup plus puissant que ces médias eux-mêmes. Et pour poursuivre d'un mot sur cet exemple, dans la discussion peut-être qu'on pourra en prendre d'autres, la plupart des sommités médiatiques nous ont dit, dont certaines enseignent à Sciences Po, nous ont dit qu'il faut faire un effort de pédagogie pour informer les gens sur le traité constitutionnel européen. Et l'effort de pédagogie qu'ils ont fait, en faveur du oui en l'occurrence, n'a pas été entendu. Ce qui prouve que le peuple est populiste, c'est en général ce que les prétendues élites disent quand le peuple ne fait preuve d'une certaine surdité. Simplement, une partie du peuple en question, je ne dirais pas la totalité, ce serait évidemment outrancier, disposait d'autres sources d'informations que les informations qui étaient distillées par nos grands pédagogues. Ils disposaient au moins de deux sources d'informations. La première, l'information diffusée en cours de campagne par ceux qui menaient campagne en faveur du non, et qui n'étaient pas moins pédagogues que les prétendus pédagogues qui trônent dans les médias. Et puis, ils disposaient d'une autre source d'information qui s'appelle leur propre expérience sociale. Alors évidemment, leur expérience sociale ne portait pas sur les institutions européennes. J'en conviens. Enfin, combien de partisans du oui ont eu le courage de lire ce foutu traité, et surtout de lire la version prétendument simplifiée, devenue totalement illisible, à force de renvoi au traité antérieur. Mais ils disposaient d'une information sur les effets d'un certain type de construction européenne. Les conclusions qu'ils en tiraient pouvaient être vraies ou fausses. Tout dépend de l'option politique que l'on prend sur la question de ce traité. Mais elle était fondée sur une certaine forme d'information, celle qui est livrée par ces différents aspects de l'expérience sociale, qui reste indépendant, du moins partiellement, de ce que les médias disent, diffusent, prétendent penser ou faire penser à ceux qui les écoutent, les lisent ou les contemplent. Donc ce pouvoir n'est pas autonome. Quand il agit, c'est qu'il entre en résonance avec d'autres pouvoirs économiques et politiques. Je voudrais en citer un seul exemple. À l'occasion d'élections présidentielles, on constate aisément, et même parfois plusieurs années à l'avance, que les médias sont essentiellement des médias de second tour, qui considèrent que la campagne électorale a pour objet, ayant pour objet de désigner un président de la République ou une présidente de la République. Le véritable enjeu, c'est la présence au second tour, ça c'est depuis la présence au second tour de M. Le Pen, et qui va remporter le second tour. Si bien qu'il présente la compétition électorale de façon absolument dominante comme une course de petits chevaux. En ce sens, ils exercent un pouvoir, qui est un pouvoir de mise en scène du politique, qui est pour le moins discutable. Le font-ils seuls ? Non. S'ils exercent ce pouvoir et en ce sens, c'est parce qu'ils se coulent dans les institutions de la Ve République, institutions de la Ve République dont vous devez l'apprendre en ces vénérables lieux, qui poussent au bipartisme, et dans lesquels l'élection présidentielle élection qui est la reine des élections qui détermine pratiquement toutes les autres, du moins toutes les autres élections nationales. Donc ce n'est pas un pouvoir qu'ils exercent seuls, ce n'est pas non plus un pouvoir homogène, tout simplement parce qu'il dépend non seulement des médias qui les diffusent, mais des publics qu'il atteint et des sujets qu'il aborde. J'ajouterai également des temps. Tel pouvoir qui ne s'exerce pas dans l'instant peut être un pouvoir entre guillemets de conditionnement sur le moyen terme. Un seul exemple. Vous imaginez bien que ce n'est pas parce que la majorité des électeurs américains ou des citoyens américains ne savaient même pas où se trouvait l'Afghanistan ou l'Irak sur une carte, et qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait là-bas en Afghanistan, en Irak, un dictateur nommé Saddam Hussein, au moment où le gouvernement américain décide de déclencher une invasion de ce pays. Ce n'est pas parce qu'ils l'ignoraient dans l'instant qu'ils ont réussi à avaler tout et n'importe quoi, médias aidant, sur l'existence des armes de destruction massive. Il a fallu sans doute un conditionnement de longue durée qui fait que la politique internationale, la plus grande puissance de la planète, occupe à peu près 5% des informations dans la plupart des grands médias américains. Allez vous étonner ensuite que les citoyens américains n'aient pas une claire conscience de la place de leur pays à l'échelle de la planète, de la situation à la fois sociale, politique, géopolitique, des pays que les États-Unis, ou plus exactement leur gouvernement et leur armée, peuvent le cas échéant envahir, il n'y a pas de quoi s'en étonner. Donc ce n'est pas non plus un pouvoir homogène. En vérité, il faudrait ne pas parler du pouvoir des médias parce qu'il n'y a pas un pouvoir, mais plusieurs pouvoirs. Des pouvoirs multiples dont les effets varient selon les médias et leur public.